Vous êtes sur RTL.
RTL Soir avec vous, Marion Calais, Julien Cellier. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Myriam.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos et de curiosités. À la une des villes dévastées, de l'eau jusqu'aux mollets, des millions de foyers privés de courant. Dégâts historiques après le passage de l'ouragan Ian en Floride. Nous irons rejoindre notre envoyé spécial aux États-Unis. Les autres titres de l'actu, Marion.
Gagner plus, mais pas travailler plus longtemps. La réforme des retraites au cœur des manifestations un peu partout en France aujourd'hui. Adoption de la réforme pourtant souhaitée avant la fin de l'hiver. Dans ce journal aussi, des Français qui font plus de bébés. En tout cas, c'était le cas l'an dernier et c'était une première depuis 6 ans. Les fuites de gaz en mer Baltique, 4 fuites sur les gazoducs Nord Stream. Quelles conséquences ? Et puis le retour de Bruce Springsteen. Nouvel album de reprise annoncé pour le 11 novembre.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL va vous emmener à Windsor. RTL a pu visiter la chapelle où repose Elisabeth II. 18h15, notre invitée sera la maman d'un gendarme mis en cause dans l'affaire Adama Traoré. Virginie Gauthier publie un livre, Mon fils n'est pas un assassin. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, une femme caméléon dans le Beaujolais, fausse infirmière, fausse médecin et maintenant fausse instite, elle vient d'être démasquée. 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes d'infos autrement avec Cyprien Signé, toute la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Menu.
Ce soir, on va répondre à une question un peu angoissante, en cas de guerre, seriez-vous mobilisable ? Bah oui, on vous laisse y penser. Réponse dans 40 minutes. Au menu également, les trous de mémoire de plus en plus affolants de Joe Biden, le risque de pénurie de médicaments génériques et les bouchers français champions du monde, messieurs, dames.
Voilà, on a aussi des bonnes nouvelles. 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont et puis le temps très régulièrement dans RTL Soir avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain ?
Plus sec, plus lumineux et surtout plus doux.
Ah bah très bien, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et déjà des dégâts historiques annoncés par le gouverneur de Floride après le passage de l'ouragan Ian.
Désormais rétrogradé en tempête tropicale, mais son passage a semé la dévastation, notamment sur la côte ouest de l'État. Bonsoir Lionel Gendron.
Bonsoir à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial de RTL en Floride. On sait que plus de 2,5 millions de personnes sont privées d'électricité, que des villes ont été inondées. Mais pour ce qui est d'un bilan plus précis des dégâts, il va falloir attendre encore un peu.
Oui, parce qu'il est déjà que midi ici et beaucoup de zones sont tout juste accessibles. Alors, il y a des disparus, hein, c'est sûr, mais disparus ne signifie pas mort. Beaucoup n'avaient ni électricité ni téléphone, donc étaient injoignables. Il faut aussi prévenir les familles d'éventuelles victimes. C'est pour ça que les propos d'un shérif de comté, tout à l'heure évoquant de nombreux morts, n'ont pas dû plaire aux autorités. En tout cas, en prenant la route ce matin, je peux vous dire que dès la sortie d'Orlando, alors qu'il y a 3 heures, on était au cœur de la tempête, hein, eh bien, beaucoup d'accès sont déjà dégagés pour favoriser le travail des secours. Les arbres, notamment, ont été déplacés sur le bas-côté. Les habitants participent, comme John, à la trentaine. Il vient d'installer une pompe pour aspirer l'eau dans la résidence dont il a la gestion. Il a 34 ans et cette tempête l'a tout simplement stupéfait.
J'ai toujours habité ici. C'est une tempête qui va rester dans les mémoires. De par sa taille, sa lenteur, la puissance des vents, le niveau de pluie, c'était très mauvais.
C'est très mauvais, surtout les inondations en cours et à venir. C'est ce qui inquiète les autorités qui ne cessent de répéter que le danger n'est pas écarté.
Ouais, Lionel Gendron, en Floride, pour RTL, l'état de catastrophe naturelle majeure a été décrété par le président américain Joe Biden. Rappelons que plus la surface des océans est chaude, plus la fréquence des ouragans les plus intenses augmente.
RTL Soir.
18h04, c'était le premier rendez-vous de l'automne dans la rue, des manifestations aujourd'hui un petit peu partout en France.
À l'appel de la CGT, Solidaire, FSU et d'organisations de jeunesse, plus de 4000 personnes à Marseille ou à Nantes, 40 000 personnes à Paris selon les organisateurs.
Et défilé dans lesquels s'est invité forcément la réforme des retraites. Écoutez Valentin, animateur en centre périscolaire, c'est aussi l'occasion d'avertir, lui n'a pas l'intention de travailler plus longtemps.
Au quotidien, on accompagne les enfants dans la progression. On est là pour s'occuper d'eux. On les porte quand ils pleurent. Et en fait, j'ai des collègues qui n'ont même pas 60 ans encore, qui ont le dos cassé. Il faut se baisser, il faut se relever. Il y a de la manutention aussi parce qu'on déplace des chaises, on déplace des tables pour les activités, on déplace du matériel. Moi, j'ai 31, mais non, je ne me vois pas aller jusqu'à 65 ans parce que bah, physiquement, on ne tient plus. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a la pression derrière aussi avec les parents pour un petit salaire et on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Je touche 1400 euros. Si en plus il faut aller avec 65 ans, bah, il est hors de question qu'on parte à la retraite pour mourir tout de suite. On veut pouvoir profiter. Plus on va partir tard à la retraite, moins on va pouvoir en profiter.
Profiter à la retraite, le témoignage de Valentin au micro RTL d'Anaïs Bouissou dans le défi Les Parisiens tout à l'heure.
La réforme des retraites avec concertation, mais adoptée avant la fin de l'hiver. C'est le programme en tout cas du gouvernement. Et on rappelle qu'Emmanuel Macron, en cas de blocage à l'Assemblée, envisage la dissolution.
La réforme des retraites, donc dont il était question dans la rue, mais aussi pouvoir d'achat, augmenter les salaires. Voilà ce que demandaient aussi les manifestants en plein cœur de cette question sur l'inflation, avec ce soir un chiffre. Saviez-vous que chaque année, nous jetons 432 euros à la poubelle? C'est l'équivalent de nos déchets alimentaires. Peut-être aussi là, une piste d'économie. Léonard Cassette, pour RTL, a joué l'honnêteté. Il a cherché à progresser auprès des clients d'une épicerie vrac du 19e arrondissement de Paris.
Moi non plus, je ne suis pas un élève modèle en termes de gaspillage, donc j'ai décidé d'aller faire un tour pour prendre quelques conseils avec Ouria, la vendeuse.
Le principe, c'est d'acheter la quantité dont on a besoin, surtout les fruits et légumes, qui périment quand même assez vite.
Pour un panier de 4 kilos de fruits et légumes, pour une semaine par exemple, il faut compter 15 euros, mais je peux aussi me rabattre sur un panier de légumes abîmés cette fois, 5 euros seulement.
Bah là, vous voyez, il y a des poires, des pommes, des tomates, des carottes, tout est comestible. On les mange.
Du coup, ici, les clients comme Mickaël sont déshabitués.
C'est par conscience écologique. On ne jette pas du tout. Pour moi, c'est un peu un tabou, jeter la nourriture.
Son astuce, à lui, c'est la liste de courses pour toujours acheter les bonnes quantités. Léna, elle, utilise l'intégralité de ses légumes.
J'essaye d'être assez créative pour rien jeter. On peut toujours faire des bouillons avec les épluchures et même avec les peaux d'oignons. Ça rajoute des saveurs et des couleurs.
Et quand vraiment c'est impossible, elle se sert de son composteur.
Un reportage signé Léonard Cassette pour RTL.
Quatre mois après l'onde de choc toujours de la finale chaotique de la Ligue des Champions au Stade de France, on apprend aujourd'hui que deux victimes britanniques des incidents à Saint-Denis se sont depuis suicidées.
Deux victimes qui ont déjà, par ailleurs avant, été témoins du drame d'Hillsborough qui s'était déroulé à la fin des années 80, des mouvements de foule qui avaient fait près de 100 morts. Pour eux, les incidents du Stade de France ont réveillé des traumatismes plus anciens, comme l'explique Anne Herr, survivante elle-même de Hillsborough et membre d'un groupe de soutien des victimes d'Hillsborough et du Stade de France.
De nombreuses personnes qui étaient à Paris en mai dernier continuent d'être traumatisées, pas seulement par les événements de ce jour, mais aussi par les souvenirs du drame de Hillsborough. Ce qui les a le plus traumatisées, c'est d'abord le fait de se sentir enfermés à cause de la mauvaise gestion de la foule par les autorités. Ensuite, des familles ont été attaquées ce jour-là, certains par des membres de gangs locaux, d'autres par la police elle-même. Enfin, ce qui leur a rappelé le traumatisme de Hillsborough, c'est le fait d'être accusé de ce qui s'est passé. C'est rare que les victimes d'une tragédie soient accusées d'en être les responsables.
Est-ce que vous accusez les autorités françaises d'avoir une responsabilité dans ces deux suicides?
Dans ces cas précis, je dirais juste que ce qui peut aider les gens à sortir de cette détresse, c'est qu'il y ait une responsabilité établie. Le temps que ça prend d'avoir des réponses, d'établir des responsabilités, et le temps que ça prend d'innocenter ceux qui étaient là, ça empire les choses. Ça ne les arrange certainement pas.
Anne Herr, membre d'un groupe de soutien des victimes d'Hillsborough et du Stade de France, jointe pour RTL par Nathan Bocard.
Allez, petite pause dans ce journal, dans RTL Soir, et dans un instant, les Français font plus de bébés et c'est peut-être l'effet déconfinement. À tout de suite sur RTL.
Julien Cellier,
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. Et c'est donc une première depuis 6 ans. On a fait plus de bébés en France l'an passé.
Bonsoir Marie Guerrier.
Bonsoir.
Bon, c'est pas un bon non plus, hein, mais au moins un rebond, plus 0,9% avec ce constat de l'INSEE, Marie. Chaque sortie de confinement a été l'occasion pour les Français apparemment de relancer les projets de naissance. Hein.
Exactement. Un pic de naissance en mars et avril 2021. Ça veut dire une conception en juillet et août 2020. L'été post-premier confinement, rappelez-vous, on avait alors l'impression de revivre. Et puis, à nouveau, une hausse des naissances à partir d'août 2021 et jusqu'à la fin de l'année. Et là, eh bien, ça nous renvoie, pour la conception, à la période post-deuxième confinement, fin décembre 2020, rebelote. Alors, la crise sanitaire avait fortement incité les futurs parents à retarder leur projet de bébé par peur, un contexte incertain. Et puis aussi, pour certains, parce que les centres de procréation médicalement assistés étaient fermés pendant le confinement. Le nombre de naissances est en hausse chez les femmes de plus de 30 ans et davantage encore chez les femmes de plus de 40 ans. Mais il baisse, hein, chez les plus jeunes. Alors, en tout, sur l'année 2021, il y a eu 6900 naissances de plus que l'année précédente. La première hausse, vous le disiez, depuis 6 ans. En moyenne, 24 bébés de plus par jour.
Donc plus 700 000 bébés au total. Hein,
oui,
en
c'est ça.
2021, Marie Guerrier, merci. Des parents ou futurs parents qui s'inquiètent aujourd'hui forcément pour l'avenir de leur progéniture sur cette planète qui se réchauffe. Et ce qui se déroule en mer Baltique en ce moment n'est pas vraiment pour rassurer.
Et certains experts qualifient de bombe climatique les fuites. On en a parlé hein, depuis le début de la semaine. 4 fuites désormais sur les gazoducs qui relient l'Europe à la Russie. Alors, danger ou pas, on essaie d'en savoir un peu plus ce soir.
Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir.
D'abord ce gaz, le méthane qui s'échappe sous l'eau, il passe aussi en partie dans l'atmosphère ?
Ah oui, l'essentiel même se retrouve dans l'atmosphère. Une petite partie se dissout dans l'eau de mer, mais le reste s'échappe. C'est du méthane et c'est un puissant gaz à effet de serre qui a un pouvoir réchauffant bien plus grand que le gaz carbonique.
Si ces fuites continuent, quelles conséquences potentielles ?
Alors d'abord, elles vont continuer pendant encore quelques jours, le temps que tout le gaz qui est dans les tuyaux s'échappe. Pour les poissons, a priori, ça ira, estiment les spécialistes, il n'y aura pas de pollution en mer. En revanche, pour le climat, ce n'est pas une catastrophe, mais la planète s'en serait bien passée. Philippe Siès est directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat. Selon ses calculs, l'équivalent de 30 millions de tonnes de CO2 sont parties dans l'atmosphère.
Pour vous donner une idée, Paris, la ville de Paris, par an, tous ses habitants, ils émettent 10 millions de tonnes de CO2. Ça représente 7 ou 8% de toutes les émissions françaises pendant un an. Ça veut dire quand même que climatiquement, vis-à-vis des engagements pour les accords de Paris, c'est un événement qui représente quelque chose, qui est important.
C'est énorme.
C'est énorme, mais figurez-vous, des fuites, ben, y en a partout et toute l'année sur la planète, sur des gazoducs qui sont parfois vétustes. Mmh. Elles sont observées par satellite. L'Agence internationale de l'énergie chiffre le total à 135 millions de tonnes par an, donc c'est 4 fois Nord Stream.
Explication de Virginie Garin ce soir sur RTL.
Et demain, réunion du Conseil de sécurité de l'ONU hein, sur ces fuites. Demain également à 14h. Discours de Vladimir Poutine pour finaliser l'annexion des territoires ukrainiens. Avant ses concerts l'année prochaine en Europe, ce nouvel album annoncé aujourd'hui par Bruce Springsteen, un album de reprise soul inspiré de standards de la Motown.
Oh,
ça va être chouette, sorti le 11 novembre prochain. Et puisque vous êtes impatient, allez, un petit extrait. Love You, extrait du prochain album de Bruce Springsteen, Only the Strong Survive.
Pourquoi a-t-il attendu si longtemps pour se mettre à la soul music?
Ah, hein, oui,
n'est-ce
on est
pas
d'accord.
Peggy, ça
ah,
c'est votre cas.
J'adore,
c'est l'occasion
j'adore.
En tout cas de vous renvoyer vers la série du podcast de la rédaction Focus consacrée, c'était cet été, au boss Springsteen. Focus à retrouver sur l'appli RTL et sur RTL.fr. C'est le bébé de Marion Calais, ici présente. Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps, on peut laisser la musique si vous voulez,
ah bah
Peggy.
Oui.
Allez,
ah bah
on laisse la musique
super.
Pour la météo.
Vous
il
avez
fait un peu meilleur
penser.
Demain, c'est pas mal.
Oui, parce que on revient sur un temps sec demain sur la majeure partie du pays. Alors, encore quelques averses sur les Pyrénées le matin, également en Corse. Ailleurs, c'est sec avec quelques grisailles matinales, mais l'après-midi, on va retrouver du beau soleil quasiment partout. Quelques gouttes encore sur les Pyrénées, des averses parfois orageuses entre les Alpes et la Corse. Un peu plus de nuages sur la façade est, mais globalement pas grand-chose. Et l'arrivée d'une perturbation sur le Finistère avec juste quelques gouttes dans l'après-midi, ça va s'accentuer. Les pluies sont plus actives en soirée avec du vent. vent partout ailleurs, donc du beau temps, mais de la fraîcheur le matin. Les températures sont quand même assez fraîches, c'est vrai. On est souvent sous les 10 degrés, sauf près de la Méditerranée. On aura quelques gelées matinales sur le nord-est, mais l'après-midi, ça remonte et on se rapproche des valeurs de saison. Donc on aura moins froid, de 14 à Langres, à 23 à Toulon, 16 à Bourges et Lyon, 18 à Paris, Rennes et Toulouse et 21 à Marseille.
Merci Peggy.
La brigade RTL soir.
Et la brigade RTL ce soir, eh bien, vous emmène là où repose Elisabeth II. Alors, c'est évidemment devenu un lieu de recueillement. La chapelle est ouverte depuis ce matin à Windsor, 3 semaines seulement après le décès de la reine. Décès d'ailleurs de vieillesse. On a appris cette précision et elle est importante aujourd'hui. On va poser 3 questions à notre envoyé spécial de l'autre côté de la Manche, Marie Billon. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Alors vous nous confirmez, c'est un lieu de recueillement. Vous avez dû attendre aujourd'hui, il y avait foule.
Oui, une foule en forme d'une longue file d'attente. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, mais rien à voir avec les proportions de la fameuse queue pour aller voir le cercueil de la reine à Westminster. Alors, j'ai visité plusieurs fois le château et la chapelle Saint-Georges, hein, où se trouve la reine désormais, mais j'avais vu ça. Hein. Quand je suis arrivée, la file faisait tout le long de la chapelle. En partant à la mi-journée, elle débordait dans la cour centrale du château.
Racontez-nous l'atmosphère, ce qu'on ressent quand on pénètre dans la chapelle.
Alors, déjà, à l'intérieur, la queue n'est pas terminée. La seule différence, c'est que interdit de jouer avec son portable. Un représentant de la chapelle demande à l'entrée de le mettre dans sa poche. Photo interdite aussi. Donc, il y a une atmosphère d'église, tout simplement. Il y a encore une bonne vingtaine de minutes de queue en contournant les bancs et les prie-dieu. Alors, comme beaucoup, j'ai pris le temps d'admirer les gisants sur le chemin, notamment les grands-parents de la reine, hein, George V et la reine Marie. Et j'avoue, j'avais oublié où se trouvait la petite chapelle familiale, celle qu'on attendait tous de voir. Et bien, c'est simple, c'est là où la file d'attente s'arrête, en haut de 2 petites marches, après avoir passé une porte encastrée dans un pan de mur en bois sculpté.
Et décrivez-nous cette tombe dont on a tant parlé le jour de l'inhumation. C'est extrêmement sobre, c'est ça ?
Oui, elle est dans une chapelle familiale qui est en fait une petite pièce en pierre blanche dans l'aile de la grande chapelle Saint-Georges, un peu sous le niveau du sol. Au milieu, il y a donc la nouvelle pierre tombale, à même le sol. Elle est toute noire. On lit en lettres d'or simplement 4 noms avec les années de naissance et de mort, ceux des parents de la reine, et puis en dessous, Elisabeth II et puis Philippe. C'est très sobre, très digne, à la fois majestueux et minimaliste. J'ai vu des gens faire un signe de croix, se recueillir, mais pas longtemps parce qu'il faut que la queue avance. C'était court, mais j'ai trouvé ça assez lourd et impressionnant.
La brigade RTL à Windsor ce soir avec Marie Billon. Merci d'avoir partagé avec nous vos impressions et vos sentiments ce soir, Marie. RTL Soir va revenir dans quelques secondes. Notre invitée est la maman d'un gendarme mis en cause dans l'affaire Adama Traoré, affaire très médiatisée, symbolique. Virginie Gauthier clame l'innocence de son enfant dans un livre « Mon fils n'est pas un assassin ». Tout de suite sur RTL.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h. Julien Cellier.
L'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, vous écoutez RTL Soir et notre invitée maintenant est la maman d'un des gendarmes mis en cause dans l'affaire Adama Traoré. Bonsoir Virginie Gauthier.
Bonsoir.
Alors votre livre, Mon fils n'est pas un assassin, sort aujourd'hui chez Robert Laffont. La mort d'Adama Traoré en 2016 a été très médiatisée. Depuis, c'est une très très longue bataille judiciaire. 6 ans d'instruction, instruction qui n'est pas terminée. 12 juges ont travaillé sur le dossier depuis le décès de ce jeune homme après son interpellation par les gendarmes dans le Val d'Oise. Parmi ces gendarmes, il y avait ce jour-là, votre fils, Romain, et vous racontez d'ailleurs les heures qui ont suivi dans le livre, parce que votre fils, ce soir-là, il débarque chez vous avec femme et bébé.
Alors non, ce soir-là, il est encore à Paris, et il me téléphone parce qu'il sait que ça tourne en boucle, en permanence, et il a peur que je réalise toute seule ce qui se passe. J'allume la télévision, j'ai des amis qui sont à la maison, et je découvre ce qui va devenir pour moi l'horreur, en fait. Et je vais être complètement sous le choc, parce que je ne vais pas arriver à gérer ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et quelques jours après, il va me téléphoner. Ils sont exfiltrés 2 heures après, pour des menaces de mort réelles, sur lui, sur sa femme et sur sa petite-fille.
Vous le recevez chez vous à ce moment-là ?
Et je vais le recevoir chez moi, le temps qu'on lui trouve une affectation.
Vous avez écrit ce livre, alors pour vous, pas au nom de votre fils. Vous racontez que vous aviez besoin d'exprimer votre vérité. Vous expliquez dans le livre que vous vous rendiez malade à lire les commentaires sur la page Facebook de la famille Traoré, à découper tous les articles de presse.
Oui, j'ai récolté presque 2600, 2800 articles de presse dans tous les sens. Il faut savoir que les 6 premiers mois, il y a eu plus de 600 articles, dont 2 seulement en faveur des gendarmes et tous les autres en faveur de la famille Traoré. Et pour moi, ça a été un choc de découvrir ça, découvrir qu'il y avait le silence et que personne ne prenait la défense de mon fils et de ses deux collègues.
Vous écrivez, ils imaginent mon fils comme une brute née dans une famille d'extrême droite, ils ont tout faux. Et vous tenez à rappeler dans le livre que vous êtes née dans une famille de gauche, c'est ça?
Oui, c'est ça. Parce que le raisonnement est très binaire. Si on est contre les Traoré, on est forcément raciste. Mais c'est vrai que c'était important pour moi de dire d'où je venais. Parce que c'est vrai que sur ces... d'où on vient, on sait où on va. Enfin, voilà, quelque chose qui est très important. Et c'est vrai que cet homme, mon fils, dont on parlait, ça, je comprenais pas. Enfin, c'était pas mon fils. C'était dire ça, c'était impossible. Quelqu'un d'extrême droite, facho, raciste. Pour moi, c'était terrifiant, hallucinant. C'était insupportable.
Qu'est-ce qu'il devient, votre fils, aujourd'hui? Il n'est pas mis en examen dans ce dossier pour l'instant. Il continue d'être travaillé, d'être gendarme,
oui,
sur le terrain.
Oui, oui, il travaille sur le terrain. Il n'est pas du tout mis en cause. Il est simplement, il est sous le statut de témoin assisté. C'était la seule aussi possibilité pour lui d'avoir accès à son dossier. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il n'y a rien eu. On disait les gendarmes ont fait ci, les gendarmes ont fait ça, on a porté plainte contre les gendarmes, mais quels gendarmes? Et puis un jour, il a fallu, ils ont été entendus, à ce moment-là, ils ont été placés sous le statut de témoin assisté, 2 ans après les faits. Donc au bout de 2 ans, ils ont pu avoir accès, oui, à leur dossier.
Votre livre, on a parfois l'impression qu'un avocat aurait pu l'écrire, parce que vous contestez point par point, alors parfois c'est d'ailleurs très technique, la version de la famille Traoré. Pour vous, cette affaire, elle n'est pas symbolique des violences policières?
Non. Elle n'est pas du tout représentative de violences policières. J'accepte, je comprends qu'il y ait des violences policières, c'est possible. Là, il n'y en a pas. Et on prend ça comme modèle. Donc pour moi, c'est impensable. Il n'y a rien. Enfin, le dossier est totalement vide. À part qu'il y a 2000, plus de 2500, 2800, je ne sais plus, PV qui ont été déposés, enfin, actes de procédure, etc. Je ne connais pas les termes exacts. Mais pas par les gendarmes. Il y a eu 2 non-lieux qui auraient dû être prononcés. Et la veille, quand j'ai appelé mon fils, ça y est, c'est fini, il m'a dit non, maman, ils ont encore déposé une procédure. Mmh. Et ça a bloqué la décision.
On a l'impression que vous ne doutez pas, que vous êtes absolument certaine de votre vérité. Vous êtes intimement convaincue qu'Adama Traoré n'est pas mort à cause du poids des gendarmes,
oui,
sur lui,
oui,
puisque c'est ce que soupçonne la famille et l'avocat de la famille.
C'est-à-dire que quand je lis qu'il a pris 250 kilos sur le thorax, je suis un petit peu surprise, puisque si on lit complètement, et c'est dans les journaux, c'est marqué, il y en a un qui tenait les jambes, un qui tenait un bras et l'autre qui tenait l'autre bras. Ils sont où les 250 kilos à la limite, on dirait un joueur de rugby qui a pris une mêlée sur la tête.
On attend évidemment la fin de l'instruction. On attend aussi le résultat d'une 10e expertise des experts belges qui, il y a plus d'un an et demi, avaient estimé que Adama Traoré se trouvait, alors je les cite, dans une situation d'hypoxie sérieuse, mais que sans la contrainte des forces de l'ordre, on peut penser qu'il ne serait pas mort. Est-ce que vous redoutez qu'il confirme cette expertise et que cette affaire continue de bouleverser votre famille?
Je pense que ça ne dit pas qu'il a été... Il est mort par asphyxie. Je suis d'accord. Il n'est pas mort asphyxié. D'accord, il n'a pas été écrasé, il n'a pas été étouffé, il n'a pas été frappé, il n'y a eu aucun coup porté, et il a une côte cassée, c'est dû au massage cardiaque qui a été pratiqué. Non, je sais que mon fils est innocent et que ses deux collègues sont aussi innocents. C'est un concours de circonstances.
On vous sent très touché. Est-ce que votre fils l'est autant? Est-ce qu'il ressasse cette histoire? Est-ce qu'elle l'accompagne au quotidien?
Ah oui, c'est infernal. Enfin, vous avez au-dessus de la tête une épée de Damoclès. On dit, oh, mais c'est un assassin. Non, c'est pas un assassin. Mon cri à moi, c'est arrêtez. Arrêtez, arrêtez de dire n'importe quoi. Et je suis pas la seule. En ce moment, il y a des mères qui, comme moi, qui souffrent, et des filles, et des femmes, et des enfants, gendarmes et de policiers.
Merci Virginie Gauthier, vous la maman d'un gendarme de l'affaire Adama Traoré, d'avoir été notre invitée ce soir sur RTL. Votre livre « Mon fils n'est pas un assassin » sort aujourd'hui chez Robert Laffont et vous serez tout à l'heure l'invité du 19h45 de M6. Dans quelques secondes, RTL Soir continue de vous informer, de vous étonner aussi. Il y aura vos dessous de l'actu avec une femme caméléon, une fausse instite démasquée dans le Beaujolais. Elle avait déjà été incarcérée après avoir été embauchée comme fausse infirmière, comme fausse médecin. Et puis, Laissez-vous tenter dernière avec le nouvel album du chanteur britannique vagabond Charlie Winston. A tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 19h15.
RTL Soir avec Julien Cellier. RTL, s'informer ensemble.
RTL Soir, bonne soirée, 18h30 minutes.
RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
Et Marion Calais, justement, vous rappelle les trois grands titres de l'actualité à retenir. Et
le gouverneur de Floride évoque ce soir des dégâts historiques après le passage de l'ouragan Ian. Plus de 2,5 millions de personnes sont privées d'électricité. L'ouragan a rétrogradé en tempête tropicale. Les annexions n'ont pas de place dans le monde moderne. Les mots ce soir du secrétaire général de l'ONU à la veille du discours de finalisation de Vladimir Poutine sur ses annexions de territoire ukrainien. Et puis, nouvelle augmentation de salaire en vue chez LVMH, le groupe de luxe qui annonce une prime comprise entre 1 000 et 1 500 euros pour ses employés dont le salaire brut annuel est inférieur à 60 000 euros.
Le temps demain, Peggy, c'est mieux.
C'est beaucoup mieux. Retour d'un temps sec sur l'ensemble du pays. Juste quelques averses sur les Pyrénées et la Corse le matin, entre les Alpes et la Corse l'après-midi avec peut-être un coup de tonnerre. Et puis une nouvelle perturbation qui va arriver par le Finistère, mais sinon partout ailleurs il fera beau. Ce sera frais le matin, on se couvre, et plus doux l'après-midi. On va se rapprocher des normales de saison, 16 à 18 au nord, 20 à 23 au sud, jusqu'à 25 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Soir, les dessous de l'actu.
Et les dessous maintenant d'une imposture. Une fausse instite démasquée dans le Beaujolais. Une femme qui, écoutez bien, avait déjà été incarcérée après avoir été embauchée par le passé comme fausse infirmière, puis fausse médecin. C'est à peine croyable. Bonsoir Frédéric Perruche.
Bonsoir.
Cette fois, c'est à l'école que la menteuse a opéré, dans une école primaire, plus précisément à Tapona.
Exactement, la jeune femme a exercé précisément 6 jours et elle en aurait fait 7 de plus si elle n'avait pas contracté le Covid. 6 jours au lendemain de la rentrée avec des enfants de CP-CE1 qui ne se sont évidemment rendus compte de rien. Selon leurs parents, très en colère, vous l'imaginez, quand ils ont appris qu'elle n'était pas qualifiée pour ce poste d'enseignante contractuelle, qu'elle avait un passé déjà chargé de faussaire, d'usurpatrice et surtout qu'elle avait des problèmes psychiatriques. Ses avocats ont parlé de schizophrénie, mythomanie, de troubles divers, bipolaire, dépressive, selon son mari.
Qui a découvert l'imposture ?
Eh bien, officiellement, selon l'inspection d'Académie du Rhône, des parents alertés par des articles de presse pour une affaire précédente toute récente, et l'inspection qui aurait reçu le même jour, jeudi dernier, l'extrait du casier judiciaire de Samantha avec une condamnation à 4 mois de prison avec sursis, ce qui rend impossible toute fonction dans l'enseignement. À cette occasion, on a également vérifié, mais un peu tard, que son diplôme en master 2, bac plus 5, était faux.
Ce qui est dingue, effectivement, c'est que cette trentenaire, elle n'en était pas à son coup d'essai.
Ah non, c'est assez spectaculaire. Avec un faux diplôme, elle a réussi à exercer comme médecin pendant plus de 4 mois dans un centre de santé de Saône-et-Loire en 2020 et qu'elle a été condamnée au même moment pour exercice illégal d'infirmière. Une information judiciaire est d'ailleurs ouverte à son encontre pour exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d'autrui, car elle a tout de même pratiqué plusieurs centaines de consultations et depuis 2 ans, elle a fait plusieurs mois de détention provisoire dans cette affaire.
Fausse infirmière, fausse médecin et donc maintenant fausse instite, les dessous de cette imposture à peine croyable. Donc merci beaucoup Frédéric Perruche.
RTL Soir, les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et musique. Maintenant, dans Laissez-vous tenter dernière avec le retour de Charlie Winston. Quand vous entendez cette chanson, vous pensez tout de suite au chapeau de Charlie Winston. Il y a 13 ans, il connaissait la gloire avec Like a Hobo, un premier album écoulé à 600 000 exemplaires. Et depuis, il a tracé sa route plus discrètement. Mais demain, il publie As I Am, son 5e disque. Bonsoir Stephen Bellery.
Bonsoir à tous.
Nouveau projet placé sous le signe de la Renaissance.
Oui, Charlie Winston a aujourd'hui 44 ans. Il est marié à une Française et ils vivent avec leurs enfants près de Nice. Charlie a changé de maison de disques, de musicien, de producteur pour ses concerts. Une mise à jour qu'il a jugée nécessaire après des années de souffrance dues à de gros problèmes de dos.
J'ai cherché la solution entre les scans, IRM, médecine alternative et kiné, ostéo, tout ça pour trouver une solution. Mais finalement, j'ai arrivé de faire la psychothérapie et c'était le commencement de mon trajet intérieurement, de comprendre plus en plus les choses qui arrivent chez moi. Et moi, j'ai beaucoup moins de problèmes physiquement à grâce des trajets dans ma tête. J'ai vu un psy 2 fois par semaine pendant Covid. Je voulais une autre vision de ma vie. Toute ma vie, j'étais avec ma tête dans les nuages. Mais maintenant, j'ai l'envie de rester mes pieds sur la terre un petit peu plus.
Alors, ça a été une thérapie? thérapie hein, pour Charlie Winston, qui a écrit donc 14 chansons très intimes.
Oui, du coup, il chante l'exil cérébral et géographique, la force de l'inconscient, le besoin de s'assumer tel qu'on est. Charlie a donc fait un disque très acoustique et dépouillé, guitare, piano, sifflement et guère plus, un album dont il a confié la production, tiens, un certain Vianney.
Pour moi, quand j'ai écrit l'album tout seul dans mon cabane dans la jardin, mon seul mantra, c'était juste lâcher prise. C'est pour ça que Vianney était parfait pour cet album, parce qu'il est plus simple avec ses arrangements musicaux et aussi simple. Le mec, il est très brillant et lumineux. OK, Charlie, tu as joué la musique depuis 10 ans. There's nothing to prove. Il n'y a pas quelque chose à prouver. C'est pas nécessaire de créer un nouveau son. Fais ça naturellement comme tu es. Stop, take time, think a bit. Slow down and look at what you've got. Lost in the thick of it.
Stop, rewind a little bit. Who knows, you might go changing minds. Shifting paradigms.
Un petit duo avec Vianney, vous l'aurez reconnu. As I Am, le nouvel album de Charles Winston, sort à minuit sur les plateformes, demain en magasin, tournée dès le mois de novembre.
Est de retour. Merci pour la découverte en avant-première d'extraits de cet album et ses confidences du chanteur britannique. Merci beaucoup, Steven Bellery. Merci à vous aussi, Marion Calais. La suite, ils sont entrés en musique, mais extrêmement discrètement. C'est On défait le monde. La bande, le trio, Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier s'installe moins discrètement.
C'est Laurent, écoutez religieusement Charlie Winston.
Ouais, je vois.
Mais l'album de la maturité.
Laurent est un peu brutal quand il rentre en studio. 20 minutes d'info autrement, c'est la suite. Vous en avez l'habitude. Alors on a beaucoup parlé depuis le début de la semaine, notamment de la mobilisation en Russie. Mais au fait, ici en France, en cas de guerre, qui est mobilisable? Qui partira au front? Voilà, question un poil angoissante.
Oui,
et réponse juste après ça dans RTL Soir.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL. It's about damn time.